commencer la journée du bon pied. Information, divertissement, météo et circulation, c'est le petit déjeuner parfait. L'allonger seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
L'épisode que vous allez écouter, on va parler de sujets quand même assez violents, surtout par rapport aux femmes. Si jamais vous avez besoin d'aide, si vous avez été victime d'agression sexuelle ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à appeler au 1-888-933-9007. C'est accessible 24/7 partout au Québec.
Bonjour tout le monde. J'ai encore dit donc. Seigneur. OK. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à un nouvel épisode d'A priori, l'émission et balado des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je m'appelle Charlotte et je vais encore être votre animatrice cette semaine. Donc, au dernier épisode, on a parlé du principe du come shot avec Rose et Floriane. On a parlé de la perception qu'on a de la femme dans la société, de l'attirance, de la survalorisation, de la jeunesse des femmes, de la ségrégation sexuelle et plein d'autres sujets super intéressants. Ça m'a vraiment ouvert les yeux personnellement, donc je vous invite à aller écouter l'épisode si ça vous intéresse. Pour cet épisode, on aborde un sujet également lié au mouvement féministe, mais sous un angle plus militant. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Catherine, a.k.a. Escat, et Pépé, Pénélope, a.k.a. Pépé, deux biatrices qui ont gradué l'an dernier pour parler de la violence faite aux femmes. Donc, bienvenue, les filles, vous allez bien?
Allô, ça va bien, toi?
Oui, merci. Donc, j'aimerais vraiment que vous partagiez un peu votre parcours du biatrice à actuellement. Là. Donc, n'importe qui.
Ben, dans le fond, c'est ça, comme tu as dit, j'ai fini le biatrice l'année dernière, comme Catherine. Puis moi, j'avais besoin peut-être d'un petit break d'études parce que ça faisait... Depuis que j'ai 6 ans que j'étais aux études non-stop, donc j'ai pris un contrat dans un organisme communautaire dans Saint-Roch qui se finit en août, dans le fond. Puis en même temps, j'ai commencé un certificat qui me tient à cœur, que je pense depuis le début de mon bac, qui est en études féministes et en études de genre. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup. Là, j'ai fait... je commence mon deuxième cours vu que je travaille temps plein, mais l'année prochaine, je reviens le faire à temps plein. Donc, c'est ça. Là, après le biatrice, j'avais besoin d'une petite pause puis aller travailler sur le terrain. Je trouve ça vraiment intéressant puis ça permet de voir un angle différent. Là, je travaille beaucoup avec des personnes qui sont vulnérables ou en situation d'itinérance. Donc, ça me permet d'être moins dans la théorie puis un peu plus dans le pratique.
Puis au biatrice, moi et Kat, on sait que tu t'es beaucoup impliquée.
Oui, en effet, c'est vrai.
Tu peux-tu un peu expliquer ton parcours, ce que tu as fait, genre tes implications?
Oui, bien en fait, ça a commencé au cégep, j'ai commencé à m'impliquer dans les associations étudiantes, donc c'était clair que je voulais continuer à l'université. À l'université, j'ai été représentante de première année pour faire comme une petite initiation à l'IAPRI, là, qui est l'association de notre bac, comme vous devez sûrement le savoir.
Ouais.
Puis par la suite, là, j'ai été coordonnatrice générale de cet asso-là. Puis après, je suis allée à l'Association des sciences sociales au même poste. Donc, ça a toujours... vous le savez, là, ouais. Vous avez été dans l'asso, là, c'est tellement quelque chose qui est le fun. Tu rencontres des gens qui sont militants, t'as des discussions. Puis moi, ça... J'ai beaucoup aimé les cours d'université, mais personnellement, ce qui m'a beaucoup appris, c'est être dans les assos. Donc, c'est aussi ça qui a comme enflammé là, la fibre militante qu'il y avait en dedans de moi. J'ai rencontré des femmes fortes, des femmes qui cédaient pas leur place, puis ça a continué d'augmenter ma ferveur féministe.
Super.
J'ai quand même un peu le même parcours que Pépé. Fait qu'au bac, je me suis impliquée comité action sociale. Là, j'étais vraiment beaucoup dans la justice sociale. Puis après ça, j'ai fait VP socio-culturel. Fait que VP party pour les victimes. Puis je pense que c'est là que j'ai réalisé, comme Pépé, là, c'est là que tu apprends là, les cours. C'est vraiment cool et tout. Mais il n'y a rien de tel que d'avoir des exemples concrets plus professionnels là, que de faire des partenariats et tout. Puis j'ai fini l'an dernier. Puis j'ai commencé un certificat en communication. Fait qu'on n'a pas besoin de faire de maîtrise après le biatrice. J'ai fait toute ma session à temps plein la session passée. Puis là, j'ai un contrat pour 2 ans dans un organisme de Québec qui est Viol Secours, qui est le CALACS de Québec, là, donc le Centre d'aide et de lutte aux victimes d'agressions sexuelles. Ce que je fais en ce moment.
Super. Puis, dans le fond, ben, je voulais savoir si vous, il y a eu comme un élément déclencheur à votre militantisme. Est-ce que ça a toujours été un peu inné? C'était comme naturel pour vous? Ou il y a vraiment un événement ou quelque chose qui a vraiment fait que vous vouliez, tu sais, vous battre pour ce mouvement-là?
Après, j'ai de la misère à répondre parce que...
D'accord.
Pourquoi tu voudrais pas te battre pour ce mouvement-là? Fait que je sais, je peux pas pinpoint un moment en particulier que c'était mon éveil féministe. Je pense que c'est en m'entourant de femmes fortes, puis en m'entourant de personnes qui sont avec la cause, puis en lisant l'actualité aussi. Je pense que moi, vraiment, que tu lis l'actualité, tu peux pas être antiféministe.
Exact.
Si t'es pas antiféministe, ben tu es féministe. Fait que là, bref. Fait que j'ai de la misère à répondre à la question, mais c'est ça.
Ben, c'est une excellente réponse.
Dans le même ordre d'idée, là, moi aussi, ça a été ça, mais j'ai été élevée féministe. Là. Mes parents m'ont toujours dit que être femme, c'était important d'être féministe, puis qu'on pouvait faire des grandes choses, puis qu'il fallait pas se laisser marcher ses pieds. Puis ça a tout le temps été là. Je pense que ça l'a juste comme ça s'est accentué avec les années. Puis moi non plus, j'ai pas d'élément déclencheur, mais c'est plus que on dirait que quand j'ai vieilli, je me suis rendu compte un peu du traitement que je pouvais recevoir et que mes amis pouvaient recevoir. Puis en discutant avec elle, je me suis rendu compte que j'avais pas une amie qui avait pas vécu une violence sexuelle. Puis là, tu sais, je parle de catcalling jusqu'à viol. Tu sais, je connais pas une femme dans ma vie qui a pas vécu ça, que ça soit comme une petite tape ses fesses alors que c'est une violence ou que ça soit carrément une agression. Puis là, j'ai comme fait, est-ce que c'est normal? Pas du tout. Je pense que c'est ça qui a starté le militantisme en moi. Parce que j'ai toujours été féministe, mais le militantisme puis la fougue de vouloir se battre, ça a été ça. C'est de voir que, premièrement, ce que j'avais vécu, j'étais pas seule. Puis deuxièmement, qu'il y avait trop de femmes qui vivaient ça. Fait que c'est comme aberrant. Puis j'ai juste envie de te battre pour dire que ça a pas d'allure, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je peux témoigner. Là. Je pense que vous êtes deux des anciennes biatrices. Je pense que vous représentez... c'est la femme dans toute sa splendeur, dans vous êtes vraiment
non mais pour vrai
non mais tu sais pour vrai genre moi quand je suis rentrée au bac, tu sais, j'ai eu ben vous deux dans l'assaut que vous étiez vraiment tout de suite, tu sais, ça se voyait que au Biapri, tu sais, les femmes étaient présentes puis fortes, puis genre tout le temps, tu sais, vos convictions, ça a toujours été, tu sais, moi au cégep, même secondaire, tu sais, comme j'ai jamais été impliquée vraiment, tu sais, dans les assauts, tout ça, puis c'est vraiment à l'Uni que quand j'ai vu, tu sais, à quel point vous et plein d'autres, là, mais je veux dire, vous en particulier, tu sais, on voit que vos convictions, vous les portez près de votre cœur, puis c'est vraiment vrai, puis vous avez influencé, je pense, énormément de...
Mais comme nous, on s'est fait influencer par d'autres femmes avant nous. Fait que c'est pour ça que c'est important, là, qu'il y ait de la représentation, puis des femmes fortes à des postes comme ça, puis pas juste dans les astros, mais partout, parce que quand tu vois une femme qui dégage ça, t'es comme, ben moi aussi, je peux le faire, puis c'est une... Ça s'enligne après ça, là, tout le monde peut le faire. Ben, merci, Charles. Mais toi aussi, genre, en ce moment, tu dois influencer des jeunes biapristes à se lancer là-dedans. C'est ça, là. C'est
ben,
ça qui est beau.
Ben, j'espère, mais tu sais, c'est ça que. Comme je pense, comme on voit de plus en plus les jeunes femmes, genre, s'établir dans des milieux qui. Et prendre position puis être de plus en plus vocale par rapport à ce qui
est des grandes gueules.
Oui, mais c'est ça. Ça tape les nerfs de certains qui veulent pas nous entendre, mais en même temps. C'est soit ça ou star, fait que...
Exact.
Soyons grande gueule.
C'est ça. Donc, parfait, mais je vous laisserai c'est quoi que vous voudriez parler, dans le fond, aujourd'hui? Là, je pense que vous aviez préparé un peu un plan.
Ben, c'est plate à dire, mais de toute façon, on aurait beaucoup de choses à parler. C'est plate parce que notre sujet, c'est les violences faites aux femmes, mais il y a plusieurs aspects. Probablement qu'en une heure, on n'aurait même pas le temps de tout le faire.
C'est sûr que non.
Mais vu que Kat est experte, moi, j'aurais comme laissé nous parler là, un peu de ça.
Mon Dieu, mais je ne considère pas comme étant experte,
non, mais
si.
Dans le sens de ce que tu fais avec ta job, c'est tellement important, puis je pense que c'est comme l'enjeu principal là, qu'on veut parler, fait que je t'écouterai là-dessus un peu.
Parfait. Ben, je commencerai avec l'accès à la justice sur ce sujet-là.
Le non-accès.
Oui, le non-accès. mettons, pour mettre les choses en perspective, là, au Québec, ça serait une femme sur trois qui aurait vécu au moins une agression sexuelle dans sa vie. Puis on pense que ça serait probablement plus parce que très peu de cas sont déclarés. Là, pour vous donner une idée, en 2014, c'est une agression sur 20. C'est 5 %.
Et là, là.
Ouais. Fait que direct en partant, le non-accès à la justice, il y a 95 % des agresseurs qui sont ben oui, sans aucune conséquence, puis sans même lever le petit doigt pour se sauver le cul, on va se le dire. Puis par rapport aux hommes, c'est un homme sur six au courant de sa vie, donc il y a aussi des hommes. Par contre, pour alléger le texte, je parlerai des victimes au féminin et des agresseurs au masculin, puisque 94 % des agresseurs sont de sexe masculin. Le processus judiciaire, c'est très compliqué, c'est très long. C'est très violent, oui. Je pense qu'on peut se le dire.
Mais je suis vraiment contente que tu viennes en parler parce que je pense que c'est tellement méconnu.
Oui, ah, genre, absolument. C'est
personne ne le sait. Là. Comme on sait que dénoncer, mais non, à part ça.
Ben, puis dénoncer, c'est facile à dire. C'est long, c'est douloureux, ça coûte cher. Un excellent documentaire, là, si je peux plugger un documentaire sur le sujet, c'est « T'as juste à porter plainte » de Léa Clermont-Dion. C'est disponible et gratuit sur Noovo. Je pense que ça met très, très bien en lumière le non-accès à la justice pour les violences à caractère sexuel. Fait que je vous fais un petit résumé de ce processus-là. Donc, d'abord, il y aura 5 % des personnes, des femmes, qui iront dénoncer à la police, puis dès là, c'est violent. On te demande c'est où, c'est quand, qu'est-ce que tu portais bien souvent, est-ce que tu étais intoxiquée.
On revit ton expérience.
Exactement,
aussi.
Alors que. C'est très, très violent. Est-ce qu'il y avait des témoins? T'sais, ils vont tous te poser plein de questions, puis sans nécessairement te dire que les réponses que tu donnes là ils vont te suivre tout le long du processus judiciaire.
Ça sera retenu contre toi.
Exact. Mmh. Fait que c'est sans avertissement, dès tes premières paroles, ben tu peux te mettre dans la merde.
T'es traité comme étant l'agresseur.
Ouais, c'est toi qui dois prouver. Ouais,
c'est... Ça, c'est pour les femmes aussi qui dénoncent quand l'événement s'est passé récemment. Mais on fait quoi des femmes là, fait un an, deux ans, dix?
Soudainement,
tu peux plus te rappeler tous les détails. Là.
Ben non, puis si tu te souviens d'un détail, ben c'est louche.
Ouais.
Fait qu'il faut tout le temps que t'ailles... Tu sais, mettons, la chemise que je portais m'a marqué parce que je peux plus jamais porter... Mais comment ça, tu te souviens de la chemise que tu portais il y a 20 ans?
Ouais,
non,
c'est ça.
Ben non, ça n'a pas rapport, mais comment ça, tu t'en souviens pas, ça t'a pas marqué, fait que tu peux
pas t'en sortir.
Non, exact.
Y a-tu, dans ce processus-là, y a-tu quelqu'un à part, mettons, le policier qui t'entre... Comme y a-tu une personne un peu, le support ou une personne...
Tu peux demander à te faire accompagner. Je pense que c'est très bon. Ça peut être un proche, ça peut être une intervenante. Je sais que nous, à Viol Secours, tu peux demander à te faire accompagner par une intervenante tout le long de ton processus judiciaire. C'est un service qu'on offre qui est ouvert à toutes. Donc, c'est bien d'en profiter parce que, justement, c'est les intervenantes, c'est des femmes compétentes qui savent quoi faire puis qui peuvent faire le avant, te dire qu'est-ce qui va se passer, le pendant, mais le après aussi, parce que tu auras peut-être besoin d'avoir quelqu'un, une petite épaule
certainement.
Après ça. Fait que effectivement, c'est une très, très bonne question. Tu peux être accompagnée. Aussi, mettons que ta plainte à la police, ta dénonciation à la police, c'est... ton agression fait moins de 5 jours, tu peux faire une trousse médico-légale.
C'est tellement violent.
J'ai été visiter, dans le cadre de ma formation à ma job, le centre désigné là, qui est à Québec, c'est à l'hôpital Saint-François d'Assise, où ils te montrent les prélèvements qui sont faits, puis c'est extrêmement violent. Tu sais, un pap test, bon, t'en fais un alors que ça fait moins de 5 jours que tu t'es fait agresser. Ouf. Fait que c'est un médecin, une infirmière, puis encore une fois, une intervenante de Viol Secours qui est présente. Fait que c'est beaucoup de monde dans la pièce aussi, alors que c'est très, très difficile, puis très
c'est
violent.
C'est pas toutes les femmes qui sont capables, c'est vraiment correct, là.
Exact, parce qu'il y a aussi...
Délai, là,
c'est très, très court comme délai, puis plus tu es proche du 5 jours, plus les prélèvements, c'est plus difficile, parce que dès que tu t'es douché, dès que tu as uriné, dès que tu as bu de l'eau, par exemple... ben là, t'as un petit peu moins de prélèvements. Fait que c'est très difficile à faire aussi. Puis, mais si jamais les prélèvements, c'est pas fait pour toi, alors t'as un délai de 6 mois après ton agression pour faire une trousse médico-sociale, où là, c'est tous les formulaires que t'aurais remplis dans la trousse médico-légale, moins les prélèvements corporels. Fait que c'est beaucoup de paperasse, mais encore une fois, t'es accompagné par une intervenante puis une infirmière. Mais ce qui est difficile aussi, c'est qu'on va te le dire. Les prélèvements, mettons que j'ai un sperme, mais ça ne me prouve pas une agression sexuelle, ça me prouve un contact sexuel.
Exact. Ouais, ouais. Et là, c'est une game de qui dit quoi.
Exact. Fait que t'es pas plus avancé pour une si grande violence.
Puis ça, est-ce que pendant l'entrevue, ça, il parle... Ben, j'imagine que si ça fait plus de 5 jours, le policier va pas en parler. Mais est-ce que c'est dit aux femmes que oh, faut que tu fasses une trousse? Est-ce que comme il y a comme une espèce de... On pousse les femmes à le faire ou c'est plus en mode volontaire? Mais t'sais, je comprends que c'est volontaire, mais est-ce qu'on incite beaucoup à le faire ou...
Non, ben parce que ça va vraiment être une intervenante qui... Tu vas être transférée à une intervenante par rapport à la trousse. Puis elle va dire les avantages de la trousse. Puis après ça, ça reste à toi. Je te forcerai pas à faire des prélèvements. Mais sache que ça peut t'aider dans ton processus. Mais si tu n'as pas l'intention de porter plainte, parce que tu as réalisé que tu n'es pas capable... On te fait savoir c'est quoi le processus. Tu réalises que c'est énorme comme processus. T'es pas prête à ça. Tu peux faire, par exemple, juste un suivi avec Viol Secours. Alors, à ce moment-là, t'es épaulé. T'as des suivis individuels ou des suivis de groupe. C'est très, très bien. Fait que t'es quand même épaulé sans faire le processus judiciaire. Mais tu peux être épaulé aussi si tu fais le processus judiciaire. Fait que dans tous les cas, ça peut faire du bien d'en parler, mais... Quand t'es prête aussi, parce qu'en parler aussi, c'est très violent parfois. Ouais.
Des fois, ça prend des années avant de se rendre compte même qu'il y a quelque chose de violent qui s'est passé. Oui. Là. Fait que tu fais quoi, là?
Ben oui. Ben, on l'a vu avec la vague MeToo que, ouais. Tu sais, dans la pensée commune, une agression sexuelle, c'était uniquement un viol.
Oui.
Puis, tu sais, par exemple, à Viol Secours, avant, il n'y avait pas de les attentes. T'appelais, puis on te prenait en charge. Alors que depuis MeToo, il y a tellement une réalisation que, hey, l'agression que j'ai vécue il y a 30 ans, mais finalement, j'en vis encore les conséquences.
Exactement.
J'ai besoin d'en parler. Fait que, tu sais, maintenant, il y a une liste d'attente à cause de ça. Puis c'est une bonne chose parce qu'il y a eu un éveil. Puis que ben, la colère que t'as en toi, elle, il y a une raison. Là, c'est pas toi qui est mal configuré ou quoi que ce soit. T'sais. Fait que c'est un éveil aussi.
Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent que justement, elles peuvent seulement dénoncer le viol. Genre, j'ai l'impression que les femmes qui vivent un geste qui n'est pas le viol.
Ou la pénétration. Oui,
ouais, c'est ça. Pense qu'il n'y a pas de recours, j'ai l'impression. Exact. J'ai l'impression que c'est un peu...
Est-ce qu'on se fait aussi dire, c'est aussi grave que ça?
Ben oui.
Là, c'est pas grave, là. Ah, oh, regarde, arrête d'être folle, là, puis t'es dans ta tête. C'est juste un French, c'est juste une claque sur les fesses. Ouais, mais c'est pas juste ça, là. Non. Parce que, puis souvent, l'alcool est présent, puis c'est comme, ah, oh, mais l'alcool, tu sais, il était pas tout là. Mais moi, personnellement, là, quand je suis saoule, là, je ressens pas le besoin d'agresser quelqu'un. Fait que c'est pas juste l'alcool. Ça éveille quelque chose qui est déjà en toi. Mais vu que c'est souvent les hommes, on est comme, mais sont même les hommes. Mais... Non, puis il y a tellement de femmes qui ont internalisé le fait que c'est pas si grave que ça. Juste des phrases qu'on se faisait dire de comme, oh, elle dit qu'elle a mal à la tête puis qu'elle veut pas, parce qu'elle veut pas faire l'amour. As-tu le droit de juste pas vouloir faire l'amour? Ben oui.
Mais non, il faut qu'elle fasse. Exactement. Qu'elle donne un excuse.
Pis le nombre de femmes qui se forcent à avoir une relation sexuelle parce que, oh, on va arrêter de chialer. Ça fait partie aussi des violences puis de la culture du viol.
Ouais.
Puis qui fait en sorte qu'il y a bien des femmes que leur cerveau a préféré dire c'est correct, on n'en parle plus. Puis finalement, quelques années plus tard, quand on en parle, ça ressort. Puis c'est pour ça que moi, quand je dis aux gens, que parce qu'il y a des critiques à avoir du mouvement MeToo, j'en conviens, mais quand on regarde les stats que tu viens de nous dire, comment tu peux en vouloir aux femmes de trouver une forme de justice alternative? Parce que rendu là, il n'y en a pas d'autres. Les gens qui disent, ben, aller dans les tribunaux, non, tu viens de le dire. Puis c'est la preuve que tu t'intéresses pas à ce qui se passe là-dedans. De dire aux victimes, ben, pour avoir ta justice, il faut que tu ailles là-dedans.
C'est un peu déconnecté, même, là, pour quelqu'un qui n'a pas vécu une agression, de juste faire comme, ben là, vas-y, là, comme go. Ouais, ben oui. Comme, ils prennent pas en considération tout le bagage qui vient avec l'agression, avec comment deal avec l'agression, comment... Il y a beaucoup de femmes qui doivent être dans le déni total de l'agression.
Mais puis il y en a qui l'ont oublié aussi.
Ouais, exact.
Que le cerveau marche d'une manière à protéger, tu sais. Fait que ça annule. Puis des fois, il y a des gens qui doivent faire de la thérapie là, pour se rappeler des détails, se rappeler de leur agression, pour comme revenir là-dessus. Parce que ça reste que même si ton cerveau l'oublie, comme tu dis... Il y a des effets pareils. Toi, tu penses que tu l'as oublié, mais il y a des répercussions dans ta vie de tous les jours pareilles. Puis je comprends que c'est pas tous les hommes, là, du tout. Moi, j'ai des hommes là, exceptionnels dans ma vie qui se considèrent comme féministes également, parce que pourquoi tu le serais pas?
Ça, c'est un autre enjeu.
Exactement. Qui se considèrent comme féministes, mais je comprends le mouvement « not all men ». C'est vrai que c'est pas tous les hommes, mais c'est quasiment la majorité des femmes. Là. Ouais. Mais qu'il y a quand même un problème de faire. Je comprends que c'est pas tous les hommes, mais sont où, là, de base, si c'est Tu sais, il y avait une étude en Angleterre, c'est 98% des femmes là, avaient vécu du harcèlement à l'agression. Mais c'est fou, là, ouais, cette donnée-là. Mais où sont ces hommes-là, d'abord? Parce ouais, que ouais, c'est sûr, c'en est pas un, là, qui va vers toutes les femmes.
Mais oui.
Mais c'est...
Ouais, oui, c'est sûr. Mais ouais, mais je suis on dirait que c'est ça, moi ça me fait capoter genre ces stats là de puis moi tu sais personnellement j'ai jamais vécu quelque chose du genre puis je me dis même en tant que femme des fois ça m'arrive d'être genre pourquoi ils dénoncent pas pourquoi ils font pas puis pourtant tu sais je le sais à quel point ça doit être difficile mais il y a comme un espèce de tabou qui entoure.
Ben, on est tous victimes de la culture du viol. Là.
Exactement. Ouais. Je pense à un exemple, juste quand on était jeune, puis je sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, qu'il y a un petit gars à l'école qui me tirait les cheveux, puis qui m'intimidait, puis finalement, de me faire dire « Non, mais il y a un petit kick sur toi.
Ouais, » ouais. Mais on agace ce qu'on aime.
Mais ouais, oui, exactement. Ouais. Puis c'était vrai qu'il y avait un petit kick sur moi, bon, mais lui, là, quand il vieillit, qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il a appris quand il était jeune que pour attirer l'attention d'une fille, c'est de la violence, c'est d'être on and off avec elle, puis de faire comme, de dire, je donne pas d'attention. Puis tout ça, c'est de la manipulation. Mais on leur dit à un âge, là, qui sont même pas en âge de comprendre c'est quoi la sexualité, que c'est correct de dire à une fille qu'elle t'intéresse en lui tirant les cheveux. J'avais 7 ans, lui et tout, tu sais.
Mais puis, t'apprends aussi à la fille que c'est correct de l'accepter,
oui.
Ça.
Oui,
c'est ça, puis c'est flatteur.
Exactement. Ouais, flatteur. Tu devrais être content. Ben, oui. Mais c'est ça, la culture du viol. Ouais. Des fois, on dirait que le monde, quand on parle de ça, il pense que, comme on dit dans les écoles, de violer les femmes. C'est pas ça. C'est que c'est tellement sneaky, c'est tellement délicat que ça s'instaure dans une société et que ça laisse des traces. Mais quand tu t'intéresses à ça, tu vois que, ou juste les codes vestimentaires. Mm-hmm. Il y a des exemples, là, à plus finir. Là. Hey, les filles, faut donc même pas qu'on voit vos épaules. Les gars pourront pas gérer.
Oui, on a parlé la semaine passée.
Mais c'est ça. Mais après ça, c'est sûr, les gars, ils savent pas gérer quand ils voient une femme qui a des seins ou quoi que ce soit. Mais comme, pourquoi on leur apprend pas à gérer et non aux femmes de vous couvrez-vous? C'est des exemples par-dessus exemples de la manière qu'on a été élevés. Puis nos parents, c'est encore pire, là.
Absolument. Est-ce que tu veux continuer? On est en mode. C'est sûr. Mais parce que c'est ça, moi, je veux vraiment qu'on établisse ce processus-là parce que je pense que c'est méconnu là, totalement des
femmes. On est dans 5 % là, c'est ça l'affaire.
Oui, exact. Ouais. En ce moment, on est juste dans 5 % Puis après ça, c'est l'enquête policière où, déjà là, si l'enquêteur détermine qu'il n'y a pas assez de preuves, il peut te dire que c'est terminé, merci beaucoup, bonne journée.
C'est une violence, là, c'est aussi.
Ben
là,
oui.
D'avoir tout fait ce processus-là, puis te faire closer ton dossier sans même toi pouvoir te prononcer là-dessus.
Fait invalider, là, quand même.
Ouais, fait que c'est la deuxième étape, déjà là, on est à 5 % on en perd. On n'a pas la statistique exacte de combien se font perdre de là, mais ça demeure certainement beaucoup ou trop.
Oui, oui.
Puis ensuite, il y a la signature de la déclaration écrite. Puis s'il y a cette preuve, on va transmettre le rapport au procureur. Fait que le dépôt des accusations, qui là, lui aussi, le procureur, le DPCP, va regarder si lui détermine s'il y a cette preuve. Si lui détermine qu'il y en a pas assez, ça peut encore une fois être terminé là. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'embûches.
Mais oui, puis du jour 1 que tu commences, c'est quoi le processus? C'est long, c'est des mois. Que toi, t'es encore là-dedans, puis qu'à chaque fois, on réouvre la blessure, on peut pas en vouloir aux femmes qui veulent pas s'embarquer là-dedans, tu sais.
Mais puis, ça te tente-tu, toi, de le répéter 25 fois, ton agression?
Ah, mais là, si t'oublies un détail, par exemple, t'as-tu menti?
Tu varies un petit peu.
Ouais. Elle a menti. Ouais, mais quand tu comptes une histoire, ben oui, tu changes les détails, à un moment donné, t'as pas ton script écrit dans la tête, là. Ouais.
Mais il faut.
C'est ça qui est complètement perturbant.
Ben oui. Fait que ensuite la prochaine étape c'est la comparution. Fait que l'agresseur va passer devant le juge. La victime a pas besoin d'être présente à ce moment-là puisque c'est très violent de voir son agresseur. Donc là ensuite il y a deux possibilités, soit qu'il plaide coupable donc il a une peine, mais mettons qu'il il peut plaider non coupable et espérer très fort s'en sortir puisque c'est la majorité des cas. Fait qu'il va plaider non coupable et on passe à l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire. Et là, il va avoir l'interrogatoire, le contre-interrogatoire. Je pense que c'est de manière personnelle, c'est la partie la plus violente parce que là, il va avoir l'avocat de ton agresseur qui va essayer de trouver le petit détail.
La faille.
Ouais. Il va trouver la chose qui va faire d'autres raisonnables. Le doute raisonnable.
Ouais, c'est... Hey, peux-tu, tu peux-tu expliquer c'est quoi le doute raisonnable pour ceux qui nous écoutent? Puis qui
ben, ce qui est très drôle, c'est que personne n'a la même définition de doute raisonnable.
C'est bon,
c'est génial. Fait que c'est tout doute qui fait en sorte que... Peut-être pas.
OK.
Mais...
pourrait c'est culpabiliser la personne. Là,
ben oui,
mais il y en a tout le temps des doutes. Là.
Ben on n'a pas la même raisonnabilité non plus, ben toi puis moi. Puis, nous trois, on pourrait voir puis ne pas avoir le même doute raisonnable. Fait que c'est très, très subjectif. Tout dépend du juge ou du juré. Ça peut être un juré aussi qui est devant nous. Puis, je sais pas aussi, je plug un autre documentaire que j'apprécie beaucoup. C'est La parfaite victime. Je sais pas si vous l'avez vu.
Oui.
Puis, il y a un bot aussi où... Et les deux personnes qui font l'entrevue demandent à plein de personnes, c'est des juges, des ex-juges, des avocats, des procureurs, c'est quoi un doute raisonnable? Personne ne le sait. Personne n'est capable de te répondre.
Mmh. C'est vraiment, ça dépend de comment c'est analysé sur le moment, mais comme c'est tellement un gamble fou, là, puis là, tu parles de la vie de quelqu'un là, qui sa justice qui est en jeu. Puis là, en même temps, là, quand il vient le temps de l'accès à la justice, il faut parler de l'argent. Là.
Oui.
Un homme riche, oublie ça, là. Super. T'es rien, là.
Toi, l'agresseur, il choisit son avocat. Mais oui. La victime, elle, c'est une procureure. Fait que le DPCP, c'est l'État qui le fournit. Pas toi, tu peux pas dire, moi, je choisis le meilleur avocat
tu
en ville.
Vraiment
non.
Pas?
Non, c'est pas toi qui le choisis, mais ton agresseur, lui, il va se payer le meilleur avocat en ville.
Fait que plus t'es riche, soit tu vas pas en prison, là. Fait que quand que. Puis souvent, viol vient aussi avec pouvoir. Puis les hommes de pouvoir qui ont de l'argent, ben, y a-tu pas peur, lui, là, que la fille, là, qui a agressé, mettons, exemple sur un plateau de télé, ça s'est jamais vu. ben que elle, tu sais, mettons, est sur la technique, puis elle commence dans le métier. Tu veux qu'elle fasse quoi, lui, contre lui? C'est un big shot, là. Il a de l'argent. Fait qu'il va se payer un bon avocat, puis elle est avec l'avocat de... Tu sais, l'avocat de base.
Puis moi, je pense juste au fait que, tu sais, juste du point de vue de l'avocat, là, que lui, elle, doivent, genre, justement, confronter cette victime-là, puis essayer, là, puis piquer, puis essayer de trouver, là, la petite affaire, là. Moi, ça doit... Tu sais, du point de vue de l'avocat, je pense que évidemment ça doit être tough pour ceux qui ont moindrement de moralité, tu sais. Mais genre, c'est ça. Mais, hey, non. Mais c'est ça, c'est quelque chose. Puis, ben, comme tu disais, l'aspect, genre... C'est qu'on dirait des fois, il y a des femmes qui doivent se sentir comme c'est perdu d'avance, tu sais.
Parce que la majorité
est salée.
C'est ça, l'affaire. Puis, tu sais, là, tantôt, j'en parlerai un peu plus, mais je vous ai parlé... Je travaille beaucoup avec des femmes, ben, des gens vulnérables, des gens en situation d'itinérance. Hey, imagine, t'as pas d'argent, là. T'as pas une scène, t'as même pas de logement, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu peux rien faire. T'as déjà des problèmes avec la police, tu peux pas aller là-bas.
C'est souvent des gens qui ont pas confiance
exactement.
Dans ce système-là.
Je te laisse continuer, on en reparlera tantôt.
Après l'enquête préliminaire, c'est le procès. Donc, il y a encore une fois une relecture de ton témoignage maintes et maintes fois. Donc, encore une grande violence. Puis, je pense que c'est 2 ans après ta déposition de plainte à la police, il y a le verdict, la décision du juge. Voulez-vous une belle statistique? Au Canada, environ une agression sexuelle déclarée à la police sur 10 a donné lieu à une déclaration de culpabilité et 7% a mené à une peine d'emprisonnement.
Et puis là, on est dans 7% du 5%. C'est fou, là! C'est fou!
Puis c'est. Je sais pas si vous connaissez la page Facebook Abattoir aussi, je plug.
Mais non, mais c'est cool, mais moi, je la connais pas.
Je vous conseille fortement cette page. Un travail très bien fait gratuitement de cette personne. On la salue.
On la salue, oui. Merci de ton travail.
Oui. Elle a sorti récemment sur sa page Facebook que c'est, au final, si tu fais le calcul, c'est environ 0,5% des agresseurs qui auront culpabilité de plus de 6 mois.
Ah, oh, de plus de 6 mois, c'est vrai. Hey, hein? Fait 6 mois!
Si tu fais un crime, t'as 99,5% des chances de t'en sortir.
Hey,
y a rien qui t'arrête.
Ouais, mais c'est ça, on dit là.
Tu penses à des crimes qui sont bien moins... Tu penses à des ados là,
qui vendent du pot, mais plus d'emprisonnement que ça.
Ouais. Là, toi, tu détruis la vie d'une personne.
Ouais.
Puis
on parle même pas, là, tu mettons, aux États-Unis, enlève le parenthèse, les femmes qui se font avorter dans les États qui c'est pas légal ont plus de peine de prison le gars qui l'a violé.
Ouais. Ouais.
C'est fou, là, de penser ça, mais c'est ça. On est dans un monde d'hommes, puis dans la justice, ça se transmet. Là, justement, il y a des gens qui font des pages, comme tu as mentionné, des films, des documentaires, des femmes en justice aussi qui se battent pour ça. Je pense qu'il y a un changement qui arrive, mais comme ça.
Ah oui, ben, il y a le tribunal.
C'est ça, oui, c'est ça, c'est ça qui s'en vient. Ouais.
Je sais pas votre opinion là-dessus, mais moi, personnellement, je suis assez mitigée.
Moi aussi.
OK. Ça m'intrigue, pourquoi?
Ben, on dirait que si ça fonctionne puis que c'est tout le temps culpabilité, ben là, on va quand même trouver une faille puis dire que ça fonctionne pas. Fait que j'ai l'impression qu'on pourra jamais gagner. Mais je suis très, très pessimiste sur cette cause-là, puis... ouvertement, là, on n'a aucune chance de gagner.
C'est difficile, parce que là, mais en même temps, on peut même pas traiter toutes les agressions de la même manière. Il y a des agressions en tant qu'enfant. Puis là, ça devient aussi des fois de l'inceste. Puis il y a des agressions sous l'usage de drogue. Là, comment qu'on fait? La victime n'a aucun souvenir. Qu'est-ce qui se passe? Puis il y en a d'autres, que, comme il y a des... Comme on vient de voir là, dans les médias avec le cas Hull, des preuves. Il y a des preuves. Parce qu'il y en a qui sont assez audacieux pour enregistrer les trucs qu'ils font puis les garder. Oui, mais tu fais quoi quand il n'y a pas de preuves? Fait que c'est...
Mais traiter même là, on a vu qu'il y avait des preuves.
Oui, c'est
même
ça.
Pas trop sérieux.
Oui, exactement. Mm-hmm. Puis le cas des agressions sexuelles est tellement large qu'encore là, on peut pas... Même si on a un tribunal qui est fait pour ça, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer là-dessus que... C'est toujours, je sais pas, c'est de l'adaptation toujours qu'il faut avoir, puis c'est dur avec la justice, une adaptation parfois.
Je trouve aussi que, tu sais, mettons justement, le nouveau tribunal, par exemple, qui aurait beaucoup plus de sentences, je sais pas c'est quoi le bon mot, mais de culpabilité, ça serait, je trouve qu'il y aurait vraiment une perspective que les gens, j'ai l'impression, la population, serait comme, ben là, c'est rigged. Dans le sens que c'est.
Ben oui, c'est ça.
C'est genre, mais voyons. Soudainement, là, ils sont
la présomption d'innocence. Parce que là, tout le monde parle que ça met en danger la présomption d'innocence. Puis je suis très d'accord que dans notre système de justice, c'est très, très important. Puis c'est primordial. Puis c'est fondamental même. Mais moi, j'aimerais donc qu'on mette en question la question du doute raisonnable.
Ouais.
Je pense que dans le cas des agressions sexuelles, c'est ça qui est difficile. Parce que c'est tout le temps ma parole contre la tienne. Mm-hmm. Il y aura toujours un doute raisonnable. J'étais pas là.
Mm-hmm.
C'est difficile d'avoir des preuves. Comment tu vas avoir des preuves de ton agression sexuelle? Parce que même ton prélèvement, ce n'est pas une preuve d'agression sexuelle. Puis il y a des juges aussi qui vont te le dire que je crois à la victime, je crois que c'est fait agresser, mais j'ai un doute raisonnable, donc je ne peux pas faire la culpabilité.
Puis au niveau légal,
vraiment, en tant que juge, je ne peux pas y aller avec toi, ce que tu penses, ce que tu ressens, c'est vraiment les textes de loi puis la jurisprudence.
Ouais,
mais ça devient hyper violent. Complexe. Puis, tu sais, je pense que c'est important là, de travailler sur l'accès à la justice. Puis, c'est déjà un très bon pas qu'on fait. Va falloir le retravailler et tout. Je pense que c'est super important. Mais ça reste que là, il faut prendre le problème à la source. Là. Faut arrêter de dire, OK, on fait des ressources aussi pour les femmes qui sont agressées. Mais oui, il faut le faire. Mais il faut aussi arrêter de se faire agresser. Il faut éduquer les jeunes hommes, éduquer les jeunes femmes sur c'est quoi une sexualité qui est saine, sur c'est quoi la culture du viol, sur le consentement.
Oui, le consentement.
Parce que si on ne met pas de ressources là-dessus, dans quelques années, ça va continuer encore. Puis le but, ça serait que ça arrête, là, qu'il y ait autant de femmes qui doivent dénoncer. Ça serait le fun. Parce qu'on sait que là, on vient d'en parler, l'accès à la justice, on sait que ça va tout le temps être...
Je trouve que ce qui est un peu comme... très difficile avec l'accès à la justice, c'est que là, en ce moment, le fardeau de la preuve est à la victime. Puis même si dans un monde idéal, on voulait que ce soit un renversement puis du fardeau, comment tu prouves que t'as pas... Tu sais, dans les deux sens,
c'est très
le fardeau de la preuve est vraiment difficile. Fait que c'est comme un enjeu qui demande quasiment son propre système de... Puis je sais pas si le tribunal, c'est un peu ça, sa mission de voir les processus judiciaires d'une autre façon, puis peut-être d'adapter à ces situations-là, l'agression sexuelle. Mais c'est juste qu'en ce moment, c'est tellement inadéquat. Ça part, mais je suis tellement d'accord que, justement, il faut combattre le problème à la source. T'sais.
Mais il faut les
rendu
deux.
Rendu là, c'est le comportement qui est à neutraliser totalement.
Parce que il faut les deux. T'es extrêmement chanceuse si t'as... chanceuse, les gros guillemets, on s'entend, là. Si t'as assez de preuves pour comme que ça marche, parce que c'est pas le cas de tout le monde. Puis comme c'est ça, là, je veux parler de l'accès à la justice pour les femmes en situation d'itinérance. Là. Premièrement, là, c'est le lien entre la violence et les femmes qui sont dans la rue, il est là, là. Souvent, les femmes qui sont dans la rue, c'est parce qu'ils sortent de violences conjugales ou ils ont vécu de la violence depuis qu'ils sont excessivement jeunes. C'est un cycle de violence, puis des troubles post-traumatiques, puis des problèmes qui sont liés à ça. Puis les femmes, on les voit moins dans la rue parce que, premièrement, c'est excessivement dangereux d'être une femme dans la rue au niveau des agressions sexuelles, au niveau des vols, au niveau de juste se faire tabasser, là, littéralement. Donc, les femmes, on les voit moins dans la rue parce que c'est de l'itinérance invisible. elles vont passer d'un divan à l'autre, créer des réseaux de contact, parfois devoir faire des faveurs sexuelles pour habiter chez quelqu'un. Mm-hmm. Donc là, une femme qui sort de la violence, exemple parce qu'elle se faisait battre dans son foyer conjugal, doit aller dans la rue, mais pour pas se faire continuer le cycle de l'agression, doit aller chez quelqu'un qui, lui aussi, va l'agresser d'une autre manière. Fait que ces femmes-là, elles ont une relation avec la police qui est exécrable, parce qu'on sait que la police n'aime pas vraiment les personnes en situation d'itinérance.
Et puis souvent, elles ont peur d'aller à la police parce qu'elles ont un certain dossier à la police parce qu'elles se sont fait prendre
c'est très compréhensible.
À juste être dans la rue.
Puis si, souvent, quand ils vont aller vers la police, ils vont se faire donner des constats d'infraction.
Exact.
Puis c'est pas une source de justice pour eux, là, ouais. Pour elles, pour eux. Là. Fait que...
J'imagine aussi qu'il y a même un préjugé du fait ouais. qu'une femme dans la rue ouais. va être une prostituée. Là, j'imagine. Mm-hmm. Fait que quand une femme dénonce, une femme itinérante ouais. dénonce, j'ai comme l'impression que juste les policiers en général doivent avoir ce gros genre
ouais.
stéréotype-là
ouais,
de penser « Ben non, mais c'est pas une agression. »
Exactement.
Tu l'as voulu ou fait tu l'as cherché.
Souvent,
ou,
elles se protègent puis elles vont dans des maisons pour femmes, mais encore là, les services explosent. Il n'y a,
oui,
a plus de place nulle part. Il y a une liste d'attente là, toi, à ta job parce que il y en a des problèmes. Puis on le voit, là, les féminicides augmentent à chaque année. Là.
Ouais.
Ça, c'est les femmes qui sont les moins chanceuses puis qui se font tuer, mais il y en a plein qui réussissent à passer avant. Il y en a trop. Ces femmes-là se ramassent dans la rue, vivent encore d'autres violences, puis là, c'est comme c'est impossible de sortir du cycle.
Mm-hmm.
Fait que l'accès à la justice est comme quasiment inexistant. Faut comme tu sois un peu chanceuse, que tu sois super favorisée, que tu aies de l'argent la majorité du temps, que tu sois blanche, c'est plate à dire. Mm-hmm. Il y a des couches là, de stéréotypes qui se rajoutent plus que t'as un état de vulnérabilité selon ta nationalité, selon ton identité de genre,
mm-hmm.
selon ton orientation mm-hmm. sexuelle. Puis là, ben là, ça ne fait que se rajouter. Là, fait c'est un petit pourcentage là, qui ont un accès à la justice, mais encore là.
Ouais. Sur cette statistique désolante.
Ouais, désolante.
on va en profiter pour faire une courte pause et on vous revient sous peu.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Tu dévores les journaux? Tu te régales de politique? Tu salives lorsqu'on te parle d'actualité? Les Affamés, c'est l'émission pour toi. L'actualité décortiquée de façon simple, intéressante et surtout appétissante. On s'attaque aux dossiers les plus complexes dans l'actualité pour t'aider à y voir plus clair. Tout ça dans la bonne humeur. Les Affamés, c'est ta source d'information et divertissement par excellence de midi à 13h sur les ondes de Chiz 94.3.
Vous sortez pour faire la fête? Alors planifiez votre retour. Nommez un conducteur désigné, appelez un taxi ou un ami sobre ou encore passez la nuit chez vos amis. Pas de plan pour le retour? Alors vous devrez passer au plan B et à la liste suivante. 1. Rédigez votre propre annonce nécrologique. 2. Rencontrez un directeur de funérailles. 3. Dire adieu à tous ceux que vous aimez. 4. Finalisez votre testament. Et 5. Donnez vos biens, vos vêtements, votre voiture, même votre maison. Si vous planifiez de consommer, planifiez de ne pas conduire. Un message des maires contre l'alcool au volant.
L'épisode que vous allez écouter, on va parler de sujets quand même assez violents, surtout par rapport aux femmes. Si jamais vous avez besoin d'aide, si vous avez été victime d'agression sexuelle ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à appeler au 1-888-933-9007. C'est accessible 24/7 partout au Québec.
Vous êtes de retour à l'écoute d'A priori, l'émission et podcast des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Je suis toujours accompagnée de Pépé et Iskiat pour parler des enjeux qui entourent la violence faite aux femmes. Donc, à vous la parole.
Ben là, on parlait de ça, puis comme on vous a dit tantôt, il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder. Là, je pense qu'on aurait pu faire un podcast de 3 heures là-dessus. Mais un autre aspect de la violence faite aux femmes, avec l'avènement des médias sociaux, puis on est toujours pratiquement sur nos selles, donc toujours connectés, on voulait parler un peu du harcèlement en ligne qu'il peut avoir, puis qu'il y a beaucoup de femmes, autant de pouvoir ou des femmes comme tout le monde, peuvent vivre. Là, donc, c'est quand même grave. Je pense que Kat, tu avais des statistiques encore pour nous.
Yes! Donc, c'est 73% des femmes utilisatrices d'Internet à travers le monde qui ont déjà subi une forme de violence en ligne.
Et là, là.
Donc, c'est presque le trois quarts. C'est énorme. Et dans ces femmes-là, 54% des femmes qui ont vécu un cyberharcèlement connaissent l'agresseur. Ouais. Donc, ben oui, c'est pas juste des petits trolls en ligne.
Quand on parle de violence en ligne, c'est quoi?
Ben, je peux te donner des exemples. Ouais,
c'est ça, j'aimerais.
Donc, il y a déjà le slut-shaming.
Oui.
Donc, de stigmatiser ou culpabiliser une attitude ou un aspect physique qui est dit sexuel ou provoquant.
On peut juste préciser, là, tu sais, je veux dire, l'exemple parfait, Instagram.
Exact. Ben oui.
Bikini pic.
Mais là, pourquoi qu'il est en maillot, elle?
On voit tout son cul.
Exact. Le gars qui est en maillot de bain. Puis tout
ben lui, c'est correct.
Lui, c'est cool, c'est une inspiration.
Ouais. Motivation, ouais. Fitness.
Mais la fille qui fait du fitness, elle est tout, elle a le droit de montrer, là, tu sais, je veux dire.
Ben, oui, mais il Safiane Olin, par contre.
Non, mais non. Ouf. Non, elle a pas le droit.
Non, puis ça s'appelle du body shaming.
Exactement.
Donc, c'est honte aux personnes grosses, aux personnes maigres, honte au corps, principalement de la femme, pour vouloir briser son estime de soi et qu'elle se cache. D'autres exemples, le doxing, par exemple, c'est la divulgation de tes infos personnelles sur le web, donc ton adresse, ton numéro de téléphone, pour qu'on puisse passer du harcèlement, du cyberharcèlement au harcèlement physique. Mm. Ensuite, il y a le astrosurfing, que c'est attaquer en meute, fait qu'il y a une dizaine ou une centaine de personnes qui vont se réunir sur le web pour t'attaquer toi. Je pense qu'on a vu plein de ces exemples-là durant MeToo.
Ouais.
Un autre exemple, le revenge porn aussi, qui est très populaire, surtout chez les jeunes. Ben oui. Fait que c'est,
surtout chez Hockey Canada aussi.
Oui, absolument. Fait que c'est de publier les nudes que quelqu'un t'a envoyé en privé pour te venger, soit parce que c'est ta blonde t'a quitté ou parce qu'elle a décidé de ne pas être avec toi, diverses raisons.
Ou juste simplement du rejet.
Oui,
ouais, des fois.
J'imagine qu'il y a eu logique derrière tout ça. Blonde. Mais non. C'est ça. Absolument pas. Puis un dernier que j'ai appris récemment, c'est le flaming. Fait que c'est un feu roulant de commentaires injurieux. Fait que c'est sans que ça soit des gens qui se sont regroupés pour t'attaquer, mais c'est juste en permanence, par exemple, il y a un article de la presse à ton sujet. Tu regardes les commentaires, puis c'est juste, ben, mange la marde.
Ce qu'ils font à Safia Nolin constamment.
Absolument.
Là, dès qu'elle fait quelque chose, là, c'est. Puis parce que ça clique. Eux autres sont contents, mais
ben oui.
C'est de l'harcèlement, c'est de l'intimidation. À chaque fois, tu regardes des commentaires, ça défile. Là. C'est de la haine, de la haine, de la haine. Là, ça.
Puis c'est ça, ces plateformes-là carburent un peu à ça. Fait que ils veulent pas l'arrêter, même si c'est complètement comme inacceptable comme traitement de la personne, juste en général.
Mais non, mais eux autres, ça leur fait des clics, ça leur fait de l'argent. Ils ont aucun intérêt. Même si, tu sais, Safia Nolin, sur les réseaux sociaux, elle déplore ça à tout champ. Elle dit, s'il vous plaît, arrêtez de faire des articles sur moi. Je veux pas avoir des articles sur moi. Fermez les commentaires. Il n'y a rien qui se fait, puis il n'y a rien.
C'est les gens qui la suivent, puis si tu veux pas la suivre, tu l'as pas, c'est tout. Là. C'est aussi simple que ça, mais dès qu'elle fait quelque chose, là, parce que c'est une femme grosse qui s'assume, qui est magnifique, puis qui fait de l'art, mais là, elle, ça déplaît.
Ben oui.
Parce qu'elle s'est rasée les cheveux. Elle rentre pas dans le moule, mais comme, si toi, ça te déplaît, là, arrête. Là. Mais c'est juste une spirale de haine, puis ça, c'est pas la seule. Là. C'est pas la seule, puis tu sais, on se rappelle aussi, mettons, Pauline Marois, qui a une tentative d'assassinat. Quand est-ce que ça arrive, ça, à part quand c'est des femmes? C'est ça, là, des affaires comme ça. Puis, ben, je parle plus au Québec, mais la Polytechnique, tu sais. Ouais. Beaucoup de femmes sont target parce qu'elles sont femmes. Puis là, avec les médias sociaux, c'est constamment.
C'est facile.
C'est ça, c'est facile. C'est plus juste ponctuel, puis qu'il faut que tu écrives une lettre au journal pour te faire publier. Là, c'est comme, je peux commenter ce que je veux sous un faux nom.
Exact.
Je peux harceler qui je veux. Puis le harcèlement en ligne n'est pas traité comme du harcèlement. Mm. Alors que ça l'est. Puis là, ben, on fait des recommandations culturelles, mais les deux, on a écouté, je sais pas si tu l'as écouté, Charlotte, mais je te conseille le documentaire Je vous salue, salope, qui parle de femmes qui vivent du harcèlement. Là, ça va de politicienne à une femme qui étudie en enseignement. Qui ont toutes vécu du harcèlement, puis c'est terrible de la manière que c'est traité par la police, parce qu'ils se font dire, ben, on peut rien faire. Mais là, qu'on peut rien faire, c'est le. La fille, il y en a une, elle savait c'était qui. Elle s'est fait dire par l'université, non, ben, c'est pas notre domaine, nous autres, les médias sociaux, puis par la police, on n'a pas assez de preuves, on peut rien faire.
Mais est-ce que tu dis que le harcèlement en ligne est pas traité au niveau juridique de la même façon? Comme c'est pas la même définition ou ça existe pas? C'est-tu comme c'est-tu un phénomène juridique? Genre, c'est-tu quelque chose qui se traite en justice?
C'est même plus loin avec la police, dans le fond. T'sais, c'est parce que ça serait considéré une plainte. Mettons que quelqu'un là, te suit là, tous les jours chez toi en te criant là, des bêtises puis tout. Mais là, tu dis, hey, il me suit, c'est du harcèlement, c'est la même chose. Mais là, si tu vas faire une plainte à la police, tu peux avoir une injonction. T'sais, cette personne ne peut pas te contacter, ne peut pas être à 50, 100 mètres, peu importe le, la situation. Mais là, quand c'est en ligne, c'est comme...
Mais bloque-le.
Mais bloque-le. Oui, mais il va trouver d'autres manières. Il s'est fait un faux compte. Puis c'est comme... C'est ça qu'il y en a une qui dit dans le film. Elle dit... elle a vécu une agression. Puis elle dit que son agression par rapport à son harcèlement qu'elle a vécu en ligne, c'est rien. Parce que le harcèlement en ligne, elle a arrêté de compter les messages à quoi? 50 000? 40 000?
Ouais, je pense qu'elle
dit, 40 000 messages de « J'espère que tu vas se faire violer. J'espère que tu vas mourir. T'es une
salope. » Des montages. C'est horrible. Puis dans le film, il y a aussi... c'est la présidente du Parlement d'Italie.
L'Italie, ouais.
Qui dit qu'il y a des montages photos d'elle, puis que « Ah, si t'es toute seule avec cette femme-là dans une pièce, qu'est-ce que tu fais? » Puis là, dans les commentaires, c'est « Ah, je la viole, je la tabasse, j'y fracasse le crâne. »
Il y a un maire d'une ville en Italie qui a publié que si elle se faisait violer, elle sourirait plus.
Oh my God.
Mais voyons donc. C'est un maire, c'est un homme élu. Puis moi, ce que je déplore là-dedans, dans le harcèlement fait aux femmes, mettons, là, si on parle des femmes en politique, c'est qu'on les attaque là, toujours sur intégrité physique. Ben j'espère que tu vas te faire violer. J'espère que... Moi, si je te vois, là, je te tabasse, je te tue, mais jamais sur leurs propos. C'est correct, là, mettons, que tu n'es pas d'accord avec ces femmes-là. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas d'accord avec toutes les femmes qui sont présentes en politique. Mais attaque sur ses propos.
Il y a aussi des mini-agressions de... Tu sais, Pauline Marois, comment elle était habillée.
Oui. Mais Catherine Dorion, même chose aussi.
Ben oui,
là,
c'est peut-être pas nécessairement violent, mais à la longue, c'est décrédibilisant. Puis ça, je pense que c'est une forme de violence aussi assez... important.
C'est du contrôle.
Ben oui, tu te fous de ce que je dis. Tu te fous juste que j'ai une tuque sur la tête.
Exactement.
Est-ce que mes propos sont moins bons parce que j'ai une tuque sur la tête?
Non. Tu sais, quand on parle, mettons, là, de parité, il y a tout le temps des arguments là, un peu masculinistes qui disent « Ouais, mais là, est-ce qu'on va favoriser une femme au pouvoir si elle est moins compétente qu'un homme? » Puis moi, la seule affaire qui me vient en tête, c'est « Pour vrai, on va avoir atteint l'égalité et l'équité quand il va y avoir des femmes incompétentes en poste. »
Parce qu'il y a des hommes incompétents. Parce qu'il y a des hommes incompétents.
Partout. Comme c'est pas grave, il y a du monde incompétent dans la vie. Mais en ce moment, il y a des hommes incompétents en poste, puis ça. Personne n'est choqué. Mais quand c'est une femme, il faut donc bien qu'elle se prouve, il faut qu'elle s'habille bien, il faut qu'elle s'habille. Ah, ben là, elle peut pas arriver au Parlement en coton ou à thé. Ah, elle sac dans son discours. C'est une artiste. C'est tout le temps hyper piqué.
Il y a un phénomène en ce moment politique là, qui se voit que. Ben, qui est observé, du moins. Il n'y a pas énormément de recherches, mais. Que souvent, on va amener une femme au pouvoir en temps de crise parce que souvent, ça va être... Bon, d'un, on amène la femme en situation de crise. Bon, il y a l'argument que ça va être parce que les hommes ont mal géré, donc on va s'essayer avec une femme. Mais après ça, t'as... Si la crise se résorbe pas, si la crise, ça va mal, si c'est le dos de la femme, ça va retomber sur le dos de la femme et ça va être perçu comme l'incompétence de la femme en général, la femme politique en général, pas cette femme-là spécifiquement. Ça va être genre, voici un exemple concret que les femmes en politique, ça fonctionne pas.
Exactement.
Ben oui, parce que les femmes, on est une seule et unique entité.
Oui, il y a toujours besoin, à chaque crise, là, puis ça remonte à des années, besoin d'un bouc émissaire.
Ben oui.
Oh, les sorcières, c'était ça. Là, c'est à cause des femmes là, qui sont indépendantes puis qui n'ont pas de mari. Ben, c'est à cause d'elles si ça se passe mal. C'est toujours ça. C'est, elle est au pouvoir, elle. Bon, ben, la COVID, mettons, c'est à cause d'elle. Mais non, voyons donc, on fait pas ça avec les hommes. Puis, tu sais, cette année, là, aux élections, nombre record de femmes qui ne se représentent pas au Parlement. Pourquoi? Parce qu'il faut tout le temps qu'elle justifie plus. Il y a probablement aussi des violences un peu...
Là, on a vu, il y a un ex-député qui a été accusé.
Oui, exactement, oui. Tu sais, penses-tu que ça se passe pas au Parlement aussi, de tout le temps aussi remettre en question ce qu'elle dit? Ça aussi, ça fait partie de la violence. Comment on veut atteindre la parité si les femmes veulent même pas faire un deuxième mandat parce que c'est trop violent? Puis pas nécessairement juste au niveau sexuel, au niveau de leur intégrité psychologique puis intellectuelle même. Là. Ça aussi, c'est de la violence faite aux femmes. Et, dans le documentaire, c'est ça, là, la femme en Italie, ça a commencé parce qu'elle a fait un discours qu'il fallait avoir plus de place aux femmes au Parlement.
OK. C'est ça qui a provoqué
la haine dans les
médias
de la part d'hommes.
Elle méritait de se faire violer, de se faire tuer à cause de ce discours-là.
C'est toujours ça. Menace à l'intégrité physique parce que c'est une femme puis elle fait peur parce qu'elle parle fort.
Puis elle a du pouvoir.
Moi, ce
qui me fait capoter, c'est que les réseaux sociaux sont devenus tellement un outil important pour le mouvement féministe que là, on peut dénoncer puis avoir recours à une autre procédure que le processus judiciaire, tu sais. Mais à quel point il y a aussi l'endos de la médaille que ça peut être complètement utilisé contre...
Oui, justement, dans le documentaire, il y a la sœur de Mark Zuckerberg, là, qui est le président de Facebook, là, en tout cas, c'est sa compagnie, qui, elle, a étudié, là, je me rappelle plus exactement en quoi, mais en harcèlement en ligne sur les femmes, genre. Okay. Puis elle a pointé du doigt Facebook son frère ouais, en disant que c'est sa faute parce qu'il y a aucune... Il faut que ça soit les pays qui passent des lois, que le harcèlement soit, tu sais, comme banni puis tout, mais comme Facebook, là, il se dédouane de tout, là. Quand il y a des mouvements, puis même, là, on peut faire le parallèle avec la conspiration, là, qui a eu lieu dans... Puis les incels, les groupes de incels là, qui se passent, mais c'est tout sur les réseaux sociaux. Puis Andrew Tate en est un. Là, ça a pris du temps là, avant qu'il se fasse bannir. Puis il a fallu que ça soit une vidéo d'un gars qui... Ça faisait plein de femmes là, qui dénonçaient que c'était fou. Puis il y a un gars, puis je souligne ce gars-là, c'est super bien, mais comme pourquoi il faut que ça soit lui, puis qu'après, là, il soit banni. Ouais, ça a pris du temps là, avant qu'il soit banni des réseaux sociaux. Puis je sais même pas s'il est banni de tout. Là.
Je sais même pas si... Même il est revenu, s'il a encore accès. Parce que là, encore là, c'est le débat
de
les libertés d'expression et tout. Là.
Oui.
Parce que là, on a vu, tu sais, Trump vient de se faire remettre sur tous les réseaux. C'est pas le même enjeu, mais ben.
Mais parce
de
que.
D'une certaine façon, oui.
C'est de l'incitation à la haine, là. Rien de moins. Tu sais, je veux dire, t'as le droit d'avoir ton opinion. Mais ça, c'est de l'incitation à la haine. Puis justement, il y avait des femmes qui témoignaient qui étaient enseignantes, tu sais, puis qui avaient dans des écoles de garçons, tu sais. Qui disait à quel point il y a des garçons de 10 ans là, disaient que elle méritait de se faire violer, elle. Mais pense qu'ils pensent vraiment ça, non? Parce qu'ils ont entendu ça sur Internet ou par la famille ou peu importe. Mais ça, là, quand il va vieillir, qu'est-ce que ça donne? Ça rajoute un cycle de violence.
Parce que quand t'es jeune, t'es une éponge.
Apprends
de ton environnement. Puis si ton environnement, il parle de même, il voit les choses comme ça. T'sais, on va
devenir comme ça.
Ah oui, puis les doubles standards sur les réseaux sociaux sont tellement présents. T'sais, moi, je suis une femme trans qui s'appelle Dylan Mulvaney, qui disait que justement, quand elle était encore dans le corps d'un homme,
j'ai vu ça.
Pouvait poster son mamelon, puis pas de stress. Mais là, vu qu'elle a transitionné comme femme, là, c'est plus correct.
Même
c'est
mamelon.
Le même mamelon, là. Ouais. Et ses seins n'avaient pas tant poussé que ça. C'est le même mamelon, mais là. Elle est genrée comme femme.
C'est terminé.
Mais c'est plein de genres de trucs qui font comme... Faut donc bien se cacher. Même dans ton chandail, si on voit tes mamelons, tu vas te faire dire un commentaire.
J'avais vu un enfant aussi que... c'est connexe, là, mais dans le sens que c'était un homme trans qui disait à quel point... Il dit, j'ai vécu la perspective d'être une femme.
Ouais.
Je vis en tant qu'homme. Ouais. Et en tant qu'homme... C'est ridicule à quel point ma vie est changée. Parce qu'il dit, oui, ben, y a l'aspect aussi qui passe, disons. Là, je sais pas c'est quoi, j'ai juste le terme anglais. J'ai le mot anglais en tête, mais... Puis il dit, en tant qu'homme, c'est fou le traitement que je reçois, qui est complètement différent, je me fais plus écouter. Évidemment, là, t'sais, moi, je m'attends tout le temps à me faire dire des commentaires.
Oui, parce qu'il l'a vécu.
C'est ça, puis là, il est comme, hein, on m'écoute. On me regarde pas weird, on me regarde pas comme de façon, tu sais, dérangée, c'est ça.
De quoi qu'elle parle.
Il n'y a plus besoin de faire ses preuves.
Ouais. Il n'y a plus besoin, c'est ça, exactement.
Ouais, puis on se fait souvent dire, les hormones des femmes, vous n'êtes pas capable de vous gérer,
hey,
on peut-tu regarder le nombre de guerres qui a été startées par des hommes? pas mal toutes, on peut pas parler de qui est drama queen ou drama king. Là, t'sais, on faut regarder, mais comme les femmes vont toujours se faire pointer du doigt. Puis il y a beaucoup de aussi, par d'autres femmes, de la misogynie intériorisée. Beaucoup de femmes qui pensent que la place d'une femme n'est pas en politique, n'est pas dans des postes de pouvoir.
Mm-hmm.
Mais ça aussi, c'est de la violence qui se propage puis qui continue.
Mais encore là, ça vient aussi de notre société en général qui nous a comme endoctrinés de cette façon-là. T'sais, les femmes, des fois, qui vont juste... dire, il y a une nouvelle tendance sur le web qui est comme nos hicks.
Ouais.
Tu sais, c'est comme ce qui nous dérange ou ce qui nous rend un peu comme mal à l'aise quand on écoute quelqu'un parler. Puis, tu sais, il y a tellement de vidéos, c'est genre des femmes qui sont comme, c'est quoi les hicks que j'ai par rapport aux femmes? Puis, c'est tout le temps des choses reliées à la féminité, à tout ce qui est d'être femme.
C'est ça. Fais-toi trop de temps se maquiller.
Ouais, c'est ça. Fais-toi-en pas, il n'y a pas de stress. Puis, encore là, ça me fait penser, souvent, des fois, quand tu vas demander un red flag à un gars, il va dire, genre, des affaires de comme, je sais pas, elle m'a menti sur son poids, ou genre, tu sais, des affaires, tu sais, une niaiseuse, mais pas nécessairement ça, mais tu sais, vous comprenez, genre, elle aime pas, là, OK. Bon. Des femmes, souvent, des red flags, ça va être genre, il me parle de manière violente.
Il lève le ton
il invalide mes émotions. Ouais, tu sais, ça va être des affaires hyper. De l'intégrité émotionnelle puis physique qui sont mises en danger, alors que les gars, c'est pas ça, pantoute. Puis tant mieux parce que je leur souhaite pas. Mais ça prouve vraiment la différence parfois de qu'est-ce qu'une femme a peur dans un partenaire puis qu'est-ce qu'un homme a peur, tu sais. Nous autres, on a littéralement peur pour notre sécurité, là.
Mais notre vie.
Notre vie, là.
Mais oui. Tu sais, j'ai pas les stats, là, mais le nombre de crimes... ben, tu sais, là, on pourrait... Voyons, je vais le dire. On pourrait, tu sais, aller vers l'enjeu des féminicides, là, dans le sens que, tu sais, en tant que femme, juste d'être femme, ça te mérite la mort, selon certains hommes.
T'sais. Exactement.
Pas plus que ça.
Ça ne fait qu'augmenter, là. C'était les stats l'année passée, c'était qu'on était à 26. Peut-être on a fini l'année
prochaine. En 2021, on a fini à 26.
Ouais.
Puis 2022, je pense que c'est 18.
Ouais, puis on est pas.
On parle de 18
féminicides.
18 féminicides. Ouais, femmes tuées parce qu'elles étaient femmes au Québec.
Ouais, c'est ça. Puis, tu sais,
puis quand on parle pas des femmes autochtones non plus, là, on s'entend.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'il y a une stat sur les femmes autochtones.
Parce que ça, c'est sûr que ça booste la stat dans le tapis, là.
75 % des filles autochtones de moins de 18 ans ont été vécues d'une agression sexuelle. Donc, on rentre pas encore les femmes majeures, là.
Et encore là, accès
à... c'est...
Oui, oui. Puis on fait la parallèle à l'accès à la justice. Le peuple autochtone, là, aucune confiance envers la justice. Puis le corps policier. Des fois, c'est le corps policier qui fait ces violences-là.
Ah oui, puis c'est sans parler des femmes autochtones disparues aussi, là.
Oui, c'est ça. Fait que je peux pas leur vouloir de pas avoir confiance, là, envers le système judiciaire ou le système de police, là. Puis juste le catcalling, là, à Montréal, là, c'est souvent des très jeunes femmes, là, qui se font catcall, là. Il y en a une qui disait que, justement, quand elle avait eu, genre, 20 ans, elle se faisait moins catcall que quand elle avait 16 ans.
Oui.
Puis c'est ça aussi, là, c'est une violence. Je peux-tu, mettons, me déplacer du point A au point B sans me faire... siffler, envoyer de la main. Puis, tu sais, des fois, il y a du monde qui réagissent mal quand tu réagis pas à leur catcalling. Je t'ai parlé. Mais voyons donc.
Parce qu'il y en a qui le voient comme un compliment, là, tu sais.
Oui.
À la limite, là, il y a des hommes qui sont comme, hey, je témoigne de ci, de ça, de ta beauté, de ton corps, de whatever.
Il y a tellement une manière de le faire, là. Tu sais, je veux dire, si tu m'arrêtes dans la rue et tu dis, hey, excuse, je voulais juste vraiment dire, je te trouve vraiment magnifique. Passe une belle journée. Hey, merci, mon Dieu, jamais je vais être genre, hey, gros trou de cul. Mais non! Mais comme si tu me cries l'autre bord de la rue, premièrement, je vais avoir peur. Je vais faire un saut. Les gens. Puis deuxièmement, je te dois rien. Là, tu m'abordes d'une manière hyper violente. Si tu veux le dire,
respectueusement avec un petit ton doux et un beau sourire.
C'est assez.
Avec la clope dans la bouche, mais bien souvent.
C'est comme... Mais encore là, on est ingrate.
Ouais, c'est ça.
Ou tu sais, ben, c'est niaiseux, là. Des fois, c'est juste, hey, souris donc. Ben, tu dis ça au gars que tu croises dans la rue qui sourit pas? Non. Mais ça fait partie quand même des violences. Parce que ça reste que si tu te promènes à Montréal à tous les jours, il n'y a pas une journée que tu sais pas qu'il y a de call.
Ouais.
Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer quand je me promène seule à 3 h du matin?
C'est ça, ça revient à l'enjeu de la sécurité des femmes. Puis moi, tu sais, juste l'enjeu, tu sais, le catcalling, tout ça, c'est tous des mots qui viennent un peu d'émerger, là. Ouais. Tu sais, qui sont en mode, genre.
Beaucoup sur les médias.
C'est ça. Puis. Mais tu sais, par exemple, le féminicide, là, ça a pris combien de temps pour mettre un mot sur ce crime-là?
C'est probablement qu'au début, la polytechnique, c'était juste... féminicide, là. C'est
non, ça. Je pense
attentat,
que...
là.
Oui, ça a été attentat. Puis je pense que dans les années 2000 qu'ils ont dit que c'était un féminicide, c'était une attaque envers les femmes. J'ai pas la date exacte, mais...
Mais encore là, cette année, il y a eu un code promo polytechnique. C'est ça, c'était poly.
Poly.
Pour des armes, pour acheter des armes.
La Fédération canadienne des armes.
Non.
Oui, je te jure. Cette année, là... Cette année, le temps de la commémoration, là.
Au début du mois de décembre.
Oui,
il y avait 15% de rabais
sur ton arme, le code poly. C'est tellement pas une blague à faire, là.
Ben, c'est que ça a même pas de bon sens.
Mais à quel point t'es déconnecté, là, qu'il y a des femmes qui ont perdu la vie parce qu'elles étaient dans des domaines typiquement masculins. Puis que là c'est la société québécoise les plante encore, ces femmes-là, parce que ça aurait été des femmes exceptionnelles qui auraient peut-être changé complètement là, des affaires au Québec.
Mais on pense juste Dominique Anglade a étudié avec ces femmes-là.
Oui, c'est ça.
Mais elle est ingénieure de base, Dominique Anglade.
Oui.
Et elle a étudié avec... lors de la commémoration, là, elle en avait les larmes aux yeux. Elle connaissait ces femmes-là. Puis,
ça aurait pu être elle.
C'est ça.
Ça aurait pu être elle. Puis quel message ça envoie aux jeunes filles qui voudraient peut-être aller dans les domaines de sciences, des domaines typiquement masculins? Peut-être pas. Peut-être que je vais risquer de me faire tuer. C'est sûrement qu'ils pensent pas à ça, mais ça reste dans l'imaginaire collectif de faire comme ces femmes-là. Puis il y avait une liste noire là, d'autres femmes qui voulaient tuer là, si son plan avait marché. Il y en a déjà tué trop, mais ça aurait continué. Là, c'est pas le seul là, à avoir des pensées de même. Là. Puis avec les médias sociaux, ces gens-là se regroupent,
ouais,
puis échangent la suite.
Encore cette semaine, il y a un admirateur de Marc Lépine qui est l'auteur du drame de la Polytechnique qui a été arrêté parce qu'il était pro-Marc Lépine. Puis je vous plug encore un podcast. C'est Projet Polytechnique Faire Face qui est disponible sur audio de Radio-Canada. Excellent podcast qui met en lumière que c'est pas un problème du passé, Polytechnique, puis que ça peut arriver demain matin. Puis c'est pas une question de maladie mentale non plus.
Non, non, non.
C'est une personne qui est bien dans sa tête, mais qui... Tu sais, la haine envers les femmes, c'est pas une maladie mentale, non. C'est une conviction.
Ouais.
Puis
tu vois ça comme une idéologie, là. C'est pas une idéologie, là.
Ben non, c'est une conviction.
C'est une conviction. Mais tu sais, dans le sens que... C'est une idéologie, c'est bizarre. Moi, je crois à ça, mais eux autres, pour eux, là, leur idéologie, c'est comme... J'aille les femmes, je veux qu'elles meurent parce qu'elles sont femmes. Puis il y en a plein, là. C'est pas le seul, là, Marc Lépine.
Ben non. Ben puis dans le documentaire, c'est deux acteurs et un acteur et une actrice. Puis l'acteur, sa cousine est décédée au drame. Fait que tu sais, c'est très, très...
Émotif.
Ben oui, puis avec raison. Puis il discute avec des admirateurs de Marc Lépine. Puis
tu sais,
te faire regarder dans les yeux puis dire, ben moi, je suis d'accord avec ça.
Mm.
Un en tant que femme, puis l'autre en tant que cousin d'une victime. Puis la personne, là...
Elle voit pas qu'est-ce qui est pas correct là-dedans.
Ben non!
Et genre, ben non, ça fait du sens.
C'est normal.
C'est pas normal.
Hey. Tu y penses tellement fort, tu prends le micro pour le dire, là.
Mais en plus, ces hommes-là, là, ça vient d'un... Je pense d'une grosse incompréhension de c'est quoi le féminisme. Une peur de se faire enlever des droits, mais... Et puis, il y a dans tout...